Voici la main verte d'Alain Baraton. Bonjour Alain.
Bonjour Eric, bonjour Patricia, bonjour à toutes Alain. Et à tous.
Jardinier en chef du château de Versailles, vous nous emmenez à Rome ce matin. Il faut dire que trois plantes contribuent pleinement à la beauté de la ville de Rome.
Eh oui, le cyprès, bien sûr, il est présent dans tous les jardins publics. Le pin parasol, évidemment, qui donne à la ville de Rome cette petite touche si romantique. Et le cyclamen des fleuristes que l'on trouve absolument partout en hiver. En Italie et à Rome en particulier, il colore les intérieurs, les balcons et fenêtres, et il est même planté en nombre au pied des arbres sur les trottoirs.
Oui, mais il existe une quantité de variétés de cyclamen.
Eh oui, des dizaines de toutes les couleurs, blanc, rose, rouge, mauve, et plus rare, bleu ou jaune. Les cyclamen sont originaires d'un peu partout, comme d'Afrique, cyclamen africanum, de Chypre, cyclamen cyprium, de Grèce, cyclamen grecum, du Liban, cyclamen libanoticum. Il en existe aussi originaire de Turquie et bien sûr d'Italie, le cyclamen de Naples, une plante qui pousse spontanément de l'autre côté des Alpes et dans le sud de la France et en Corse.
Oui, le cyclamen de Naples qui produit de petites fleurs.
Ah, c'est une plante superbe et sa hauteur dépasse avec difficulté les 15 cm. C'est à mes yeux l'une des plus belles plantes couvre-sol et il est parfait dans les sous-bois ou au pied des arbustes.
Alors le cyclamen, lui, qui orne les trottoirs de Rome, est d'une autre variété.
C'est exact, il s'agit du cyclamen des fleuristes, aussi appelé cyclamen de Perse. Il est originaire d'Iran, du Liban, de Syrie, de Jordanie, du sud de la Turquie, d'Algérie et de Tunisie. Mais il est malheureusement, dans ce pays, en voie de disparition.
Le cyclamen, pourquoi s'appelle-t-il ainsi? D'abord, que signifie cyclamen?
C'est pas simple. J'emploie le conditionnel. Il paraîtrait que ce mot cyclamen aurait pour racine kyklos, un mot grec qui signifie cercle, en référence peut-être, à la forme et à la position des feuilles. Ce qui est certain est que cyclamen a donné cyclamine, un terme qui désigne une substance toxique produite par la plante. Le cyclamen n'est pas dangereux, sauf bien sûr à en manger, soit les tubercules, soit les feuilles. Mais là, il ne faut pas être tout à fait normal.
Mais pourtant, c'est ce que vous avez fait dernièrement.
C'est exact, mais les effets ne sont pas encore visibles, ou du moins.
Sinon, il ne fume pas.
On attend un petit peu. Mais il est bon, j'en avais déjà parlé, souvenez-vous ici même, il est bon de ne pas les laisser donc à la portée des enfants, mais également des chats qui ont tendance parfois à grignoter les feuilles et les fleurs. Et là, attention, vomissement garanti.
Alain Baraton, vos conseils et vos réponses aux questions des auditeurs de France Inter. Brian, par exemple, nous dit qu'il a un cactus de Noël qui devrait normalement faire des fleurs en cette période. Or, il n'en est rien. Est-ce normal, docteur?
Là, on parle du Schlumbera, qui s'appelle... Schlumbergera, pardonnez-moi, qui s'appelle ainsi en hommage...
Schlumbergera.
Oui, le Frédéric de Frédéric Schlumberger, toujours un petit problème avec les mots d'origine étrangère, qui était un collectionneur de cactus et c'est pour satisfaire et honorer ce botaniste français du 19e siècle qu'on a ainsi appelé la plante. La plante, le cactus de Noël, est en fait l'union de deux plantes épiphytes qui poussent dans les arbres d'Amérique du Sud et pas du tout, donc ce ne sont pas vraiment des cactés. Alors cette plante aime être à l'étroit. Cette plante n'aime pas le soleil direct et cette plante, bien qu'on l'appelle cactus de Noël, a besoin d'humidité. Si vous l'avez rempotée, si vous l'arrosez pas suffisamment et si elle a trop de soleil, elle ne fleurira pas, ce qui explique peut-être et pourquoi la plante de notre ami, eh bien, se fait attendre. Et
Julia raconte qu'on lui a offert des graines de lotus. Alors, elle a fait le pari de réussir à les planter dans le bassin de son jardin situé dans le golfe du Morbihan. Quels sont vos conseils?
De planter toujours le lotus à une profondeur supérieure à 60 cm, car la plante est originaire de pays où les hivers sont particulièrement cléments. Le lotus redoute le froid. À partir de 60 cm, il n'y a pas de problème pour avoir des lotus dans un bassin. Si éventuellement vous habitez dans une région extrêmement froide ou connue pour des printemps encore un petit peu frisqués, n'hésitez pas à retirer le pot de votre lotus, car dans votre bassin, le lotus sera planté en pot, bien évidemment, et installez-le dans un endroit chez vous de type véranda, bien entendu, dans un récipient qui contient de l'eau pour qu'il soit toujours immergé. Précision également importante, on oublie que les poissons dans les bassins adorent se nourrir de petites bestioles, de vers, ce genre de choses. Or, le pot qui contient le lotus est souvent attractif pour le poisson. Mettre toujours en surface des cailloux ou du grillage pour éviter que les poissons ne mettent à nu les racines et endommagent gravement le lotus. Mais c'est beau le lotus, c'est magnifique.
Bertin a de vieux pommiers et des pruniers également qui croulent parfois sous leurs fruits. Alors malheureusement, beaucoup de branches cassent. faut-il tailler les grosses branches?
Non, surtout pas, surtout pas. Tailler la grosse branche d'un fruitier comme un prunier, c'est pratiquement avec certitude détruire le végétal. Jamais tailler les branches des arbres fruitiers, quels qu'ils soient, de manière trop brutale. Non, il faut les béquiller. Dès le printemps, on met des béquilles pour soutenir les branches et pouvoir ainsi contempler le poids des fruits, attendre avec délectation qu'ils fructifient, enfin qu'ils mûrissent, et ensuite se précipiter chez Patricia Martin pour qu'elle nous confectionne quelques confitures.
Comptez sur moi.
Gabi a une petite mare à côté de sa maison et depuis cet été, cette mare est envahie de lentilles d'eau. Que faire?
Adopter les canards. Les canards, effectivement, mangent les lentilles d'eau. C'est une belle manière de s'en débarrasser. Plus sérieusement, une épuisette pour les évacuer manuellement. Je ne connais pas de technique, autre que naturelle pour s'en débarrasser. L'emploi des pesticides est interdit aujourd'hui, et c'est heureux, dans les jardins. Alors que faire contre les lentilles d'eau? Pas grand-chose, si ce n'est vraiment les évacuer au fur et à mesure.
Les canards, selon Belmondo, c'est con les canards, mais ça fait cossu. Adrien a le projet d'adosser à sa maison en Normandie une serre orientée à l'est et au sud. La serre ferait 20 mètres carrés au sol et 2 mètres 50 de haut. Il a le rêve d'y planter des agrumes en pleine terre. Est-ce que c'est réaliste?
Et pourquoi pas? L'un de mes prédécesseurs, j'aurais peut-être pas cette prétention, mais Jean-Baptiste de la Quintigny, qui a eu la chance de diriger le jardin de Versailles à une époque, plantait des orangers recouverts d'une structure de bois et de verre et permettait ainsi de les protéger. Pourquoi pas?
Un dernier conseil.
Oasis, un bouquin que j'ai vraiment aimé. Si vous avez encore des cadeaux à faire, c'est l'occasion, de Francis Stack, publié aux éditions Plume de Carotte. Les oasis dans le désert, ce sont des oasis. c'est magnifique.
Ça fait du bien, ça fait de l'eau pour tout le monde.
Des photos superbes.
Il est 8h10 sur France Inter. À demain, Alain Baraton.
À demain.